Il est 9h41 sur France Inter, l'instant M, ça passe vite et ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Bernard-Henri Lévy retourne auprès des Kurdes, des Peshmerga, des combattants qui, forts d'avoir résisté aux assauts de Daesh, vont ouvrir un front décisif, celui de Mossoul. Pourtant, ce ne sont pas eux, les Kurdes, qui libéreront cette ville symbole. Ce ne sont pas eux, ce sont les soldats d'élite de l'armée irakienne qui reprendront le flambeau. La bataille de Mossoul, du point de vue des Kurdes, c'est une histoire où s'entremêlent bravoure et renoncement. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Vous avez choisi votre camp. Oui, vous l'avez choisi. Et le film que vous signez pour Arte traduit l'entière subjectivité de votre approche, au risque peut-être de distordre la réalité. Quel statut cela confère-t-il à votre travail? Comment la mise en scène, très brillante, très maîtrisée de ce document, traduit-elle ce parti pris?
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bernard-Henri Lévy, vous vous référez souvent à Malraux. La guerre chez Malraux, ce n'est pas la guerre, c'est du Malraux, n'est-ce pas? C'est une œuvre.
Oui, mais là, malheureusement, dans la bataille de Mossoul, c'est la guerre.
Alors, et
c'est vraiment la guerre en face, oui.
La guerre chez Bernard-Henri Lévy, est-ce que c'est la guerre ou est-ce que c'est du Bernard-Henri Lévy?
Non, je crois que c'est la guerre, mais c'est la guerre vue par moi. En effet, moi qui ne suis pas un journaliste, qui suis un écrivain, qui suis un témoin et qui engage ma subjectivité, mon corps, mon âme dans cette aventure de la guerre. Mais je crois que c'est la guerre.
Est-ce que vous développez une esthétique de la guerre?
Non. Non.
Travaux après travaux, livre non. après livre, film après livre.
Ah, surtout pas une esthétique de la guerre. Vous connaissez la fameuse phrase d'Apollinaire, Dieu que la guerre est jolie. Je pense exactement l'inverse. Mm-hmm. Je crois que la guerre est laide.
Justement, puisque vous le dites dans ce film.
Dieu, que la guerre est laide, et sale, et triste.
Laide, sale et triste. Vous n'êtes pas de toutes les guerres, Bernard-Henri Lévy, mais de beaucoup. Et depuis très longtemps, vous regardez les hommes faire la guerre, vous les filmez, vous les racontez, vous vous y mêlez. Qu'est-ce qui vous attire dans la guerre?
Rien ne m'attire, mais c'est une expérience limite de l'humanité. C'est une part d'ombre des hommes. Et ça m'intéresse à ce titre. Et puis ça m'intéresse aussi à cause de ce qui s'y joue. C'est pas n'importe
quoi. Donc quelque chose
guerre.
Vous attire finalement dans les hommes en train de faire la guerre.
Je crois pas. Je crois pas que quelque chose m'attire. Vraiment, ça me. Au contraire, il y a quelque chose qui me répugne. Quand les écrivains parlent de la guerre, ils en parlent souvent de manière justement esthétisante.
Oui.
Espèce de carrousel guerrier, de danse phallique, d'esthétisation.
Mais vous n'êtes pas exempt d'esthétique, on va en parler.
Oui, mais c'est pas la guerre que j'esthétise. C'est peut-être les visages, c'est peut-être la beauté des êtres, c'est peut-être la grandeur d'un regard. Mais la guerre en tant que telle, je ne crois pas que ça soit le lieu du dépassement. Le grand thème, au fond, des esthétiseurs de la guerre, c'est que la guerre est le lieu du dépassement de l'humain. C'est le lieu où l'humain s'accomplit. C'est le moment où c'est une expérience limite en ce qu'elle arrache les hommes à leur quotidien, à leur médiocrité. Mm-hmm. Moi, je crois l'inverse. Je crois que ça les plonge, au contraire, dans quelque chose qui est épouvantable, qui est de l'ordre de l'animalité retrouvée. Donc, je n'aime pas la guerre. Mais des choses importantes s'y décident et s'y jouent. Là, par exemple, dans ce film-là, ce qui s'y joue, c'est la défaite ou la victoire de Daesh. C'est la claque donnée ou non au djihadisme et à sa réputation d'invincibilité.
Il n'y a pas de grandeur révélée, il n'y a pas d'humanité magnifiée dans le portrait que vous faites des combattants kurdes?
Non, pour être tout à fait honnête, je crois qu'il y a des moments rares où en effet quelque chose de l'ordre de la, du courage, donc de la grandeur, apparaît, bien sûr. Je crois que chez chacun, il y a une passe possible vers la grandeur, chez chaque individu. Et en effet, ça peut être un moment où cette grandeur se révèle, la guerre. Mais c'est pas l'ordinaire de la guerre. L'ordinaire de la guerre, c'est la peur, c'est l'effroi, c'est l'humanité renvoyée aux troupeaux humains piétinants.
C'est une vraie question, Bernard-Henri Lévy, puisque dans cette logique de grandeur révélée par le combat et par la guerre, on peut se demander, comme Éric Zemmour, s'il faut respecter les djihadistes, des gens, je le cite, prêts à mourir pour ce en quoi ils croient.
Je crois pas du tout ça. Je crois pas. D'abord, le fait d'être prêt à mourir pour ce, le sang n'est jamais un argument. C'est pas parce qu'on est prêt à mourir pour une cause que cela vous anoblit. Si on est prêt à mourir pour une cause infâme, on est doublement infâme. Et par ailleurs, dans les gens qui disent ça, il y a aussi un point aveugle, c'est que il y a aussi chez ceux qui combattent la barbarie des gens qui sont prêts à prendre tous les risques pour la combattre. Ça, cette idée d'un Occident assoupi,
pleutre,
qui n'aurait plus le courage de défendre ses valeurs, c'est faux. Je peux vous dire que les soldats occidentaux, les forces spéciales occidentales, les soldats kurdes, les journalistes, les rapporteurs de guerre, les ONG, c'est des partisans de la liberté qui prennent tous les risques pour défendre leurs valeurs. Donc arrêtons avec ce thème. On disait ça autrefois, on a toujours dit ça des pires barbaries, que l'honneur des fascistes qui consiste à aller au bout de leurs idées. Ben non, je préférais qu'ils n'aillent pas au bout.
Parlons de ce film dans sa forme. La photo est à couper le souffle. Souvent, vous avez trois opérateurs, on peut les citer. Alla Taïeb, Olivier Jacquin, Camille Lotto. Il y a des plans, il y a des cadres qu'on n'oublie pas dans ce film. Le montage est extrêmement fluide. À l'image, Bernard-Henri Lévy, vos apparitions sont plus furtives que dans d'autres films. La critique s'est souvent faite très virulente lors de vos précédents films. Vous l'avez entendu, ce procès en narcissisme qui revient très fréquemment lorsque vous sortez un film.
Oui, je sais que ça. Je sais. On doit me voir dans ce film, dans
très
le Pâté de Mossoul, bout à bout, 12 secondes, peut-être. Enfin, je n'ai pas calculé, mais enfin, ça doit être de cet ordre. Si c'est ça du narcissisme, alors les bras m'en tombent.
Non, c'était plutôt les critiques faites sur les précédents films.
Sur Peshmerga, c'était pareil. Je n'apparaissais guère dans. J'apparais dans ce film. Comme dans Peshmerga, quand je peux pas faire autrement. S'il y a un plan que nous avons eu grande difficulté à cadrer, à filmer, et que je suis dans le champ, parfois c'est moi, parfois c'est mon producteur François Margolin qui est dans le cadre aussi, parfois c'est mon ami Gilles Herzog, on prend le plan, voilà. Mais il n'y a pas il y a une subjectivité à l'œuvre, la mienne. C'est un film que j'ai vraiment.
Et en même temps, vous qui maîtrisez parfaitement cette grammaire audiovisuelle ou cinématographique, vous savez bien que tout est parti pris dans l'image, cadre, le montage, le choix des personnages. Donc, on n'a pas besoin de vous pour que ce soit tout entier de vous.
Tout est parti pris, sauf dans une situation comme celle-là, où il arrive tout de même que la caméra tremble, où il arrive souvent que la caméra fasse ce qu'elle peut. C'est pas des cadrages sages et toujours maîtrisés. Voilà,
il y a des images qui sont. Tous les codes du film de guerre sont là.
Il y a des images qui sont arrachées au réel, qui lui sont dérobées de force. Il y a des images qui violent un réel qui n'aurait pas voulu être filmé. Donc là, on n'est pas dans la rhétorique de l'image mise en scène. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, y a une scène par exemple, nous tombons dans un quartier de Mossoul, nous tombons sur des hommes qui viennent de se faire sniper. Je fais un truc qu'aurait fait, je crois, à peu près n'importe qui à ma place, j'aide. Les survivants à charger dans une petite camionnette les corps grièvement blessés de ces hommes snipés. Et j'apparais furtivement dans le cadre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais supprimer cette scène parce que j'y apparais. Je suis là. Et puis, furtivement.
Vous êtes là.
Oui, mais je suis là tellement autrement. Je suis là par mon regard, je suis là par...
Alors vous êtes là par également par la lecture que vous faites de cette situation, lecture qui est tout entière la vôtre, qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on peut lire, voir ailleurs. Dans l'instant même, on a reçu beaucoup de grands reporters revenant d'Irak et proposant eux aussi leur regard sur cette région. Je voudrais qu'on vous écoute. La population locale vous dit « Nous n'avons plus confiance en l'armée irakienne. Les Kurdes ont ouvert le front pour libérer Mossoul, mais ce n'est pas eux qui vont libérer Mossoul, c'est l'armée irakienne. C'est ce qu'on appelle la Golden Division. C'est la division d'or. C'est les soldats d'élite de l'armée irakienne qui vont libérer Mossoul. Vous les qualifiez de Rambo, vous les qualifiez de chiens de guerre. On vous écoute. »
Leur fascination pour la mort et ses emblèmes ne fait-elle pas étrangement écho à celle de leurs adversaires? Et comment ne pas s'inquiéter qu'aucun de nos compagnons ne semble exagérément troublé quand ce jour-là, au détour d'une patrouille, nous tombons sur ça?
Alors ça, c'est sans doute une séquence, à mon avis, très choquante et très contestable de votre choix, de votre montage, de votre film. Ça, c'est l'un des soldats de cette division d'or, au sommet de son char, le dos frappé d'une croix gammée. Une croix gammée sur un terrain de guerre dont vous décrivez la totale confusion. Ça ne fait pas des Irakiens des nazis?
Non, mais je dis je ne dis pas des nazis, mais d'abord,
C'est la chute de votre film.
Il y a trois séquences encore, non. D'abord, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup.
Des croix gammées?
Des croix gammées, bien sûr. Il y en a plusieurs.
Vous en montrez une, vous en faites un symbole.
J'en montre une, mais j'en ai filmé plusieurs. Et j'en fais évidemment un symbole. Pour moi, une croix gammée sur le blouson d'un combattant libérant Mossoul, c'est en effet quelque chose qui dit une part du réel de cette guerre.
Et surtout, vous dites « ça ne choque personne », qui est une façon de sous-entendre que ça va bien à tout le monde.
Ce qui est une façon de sous-entendre ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire une explication, une interpellation, une engueulade, une discussion avec mes compagnons d'équipés, mes compagnons irakiens, oui, d'équipés de ce jour-là. Et je me suis aperçu que cela a fini par poser problème quand je le leur ai expliqué, mais enfin ne posait pas problème spontanément. Et comme je pense par ailleurs qu'il y a dans le monde arabo-musulman, mais depuis très très longtemps, un impensé de cette histoire-là, en voici une manifestation.
Voilà, et c'est là où on peut se demander si vous ne distordez pas le réel, si vous ne faites pas une lecture extrêmement simplifiée, extrêmement dualiste de la situation géopolitique. On sait depuis 40 ans que vous combattez tous les fascistes, pas les résurgences du fascisme, les fascistes comme vous les qualifiez, que vous assimilez l'islamisme à un fascisme de notre temps, le djihadisme à un nazisme de notre temps. Vous l'avez dit beaucoup et souvent, vous n'avez pas comparé, lésiné sur les comparaisons entre les nazis et Daesh. Vous servez de cette image pour verrouiller ce raisonnement.
Est-ce que c'est pour le verrouiller? Je me sers de cette image en effet pour me conforter dans le sentiment que lorsque j'écrivais en 1994 La pureté dangereuse, j'avais pas tort de dire qu'il y avait là un troisième totalitarisme. Oui, bien sûr. Lorsque je disais quelques années plus tard, à la fin des années 90, que le monde arabo-musulman était la seule partie du monde qui s'était considérée, après la Seconde Guerre mondiale, comme indemne, comme immune du fascisme des années 30, et que de là naissait tout un tas de problèmes, je crois que c'était juste aussi. Je crois que ça fait partie des problèmes dont le djihadisme apparaît comme le nom. Cette impensée de la part noire de l'histoire du XXe siècle.
Est-ce que dans tous les conflits auxquels vous vous intéressez, est-ce qu'il y a nécessairement les bons et les fascistes? Est-ce qu'il y a nécessairement les bons et les nazis?
Non, bien sûr que non. Et moins que jamais, moins que jamais dans la bataille de Mossoul, et c'est d'ailleurs ce qui me rend assez triste et ce qui peut-être donne à ce film une tonalité un peu plus mélancolique que dans Peshmerga. Dans Peshmerga, mon film précédent, il y avait des, en gros,
des bons et des méchants.
Oui. Cette fois-ci, non.
Et en même temps, on se demande, dans le portrait que vous faites des Kurdes, s'il y a eu des salauds chez les Kurdes, si les Kurdes ont tous un comportement exemplaire. Vous filmez les Irakiens en train de régler quasi à l'aveugle des tirs de mortier, et c'est votre voix qui dit « Dieu seul reconnaîtra les siens ». D'ailleurs, vous faites de plus en plus allusion à Dieu, Bernard-Henri Lévy, je vous le signale au passage. Face à cela, les Kurdes qui encaissent une contre-attaque de Daesh dans la zone de Kirkuk se dressent, je vous cite, comme un seul homme contre les assaillants. Vous la simplifiez, cette guerre ?
Non, parce que, regardez, les deux histoires. Dans le premier cas, c'est des professionnels de la guerre qui se demandent si la cible est à 580 mètres ou à 80 mètres, alors que leur mission est d'éviter les dommages collatéraux. Dans l'autre exemple, celui que vous avez cité, Kirkuk, c'est des citoyens qui sont pas des soldats, qui sont pas des professionnels de la guerre, qui se défendent comme autrefois les citoyens de Sarajevo parce qu'ils défendent leur maison, leurs enfants, etc. Ça n'est pas comparable. Des citoyens en armes et une armée de professionnels ne sont pas tenus aux mêmes règles d'engagement.
Ouais. On se demande aussi si la ligne de partage n'est pas une ligne de partage religieuse. Il y a une très très belle séquence, cette prière œcuménique, les trois monothéistes, trois hommes, trois religieux, que vous réunissez, vous leur faire fête cette prière.
C'est une des mises en scène du film. Le film, je fais en sorte que le film le dise bien.
Absolument, on le comprend très bien. D'ailleurs, vous les faites rire, ils vous disent mais personne ne va rien comprendre, on va prier tous les trois ensemble.
Film, le film produit ça, nous sommes dans une ville dévastée, la ville de Bachika, et en effet nous suggérons à un imam, à un prêtre yézidi, à un prêtre chrétien
D'un côté les islamistes, les barbares, de l'autre des Kurdes musulmans à qui il revient, je cite, de sauver le christianisme de l'anéantissement sur la terre où il est né.
C'est un fait, oui. Vous savez, cette image par exemple, alors ce n'est pas notre regard qui l'a induite, nous nous trouvions là, mais cette image d'un Kurde musulman remettant la croix sur la cathédrale de Karakoche, c'est très beau dans une région du monde où il y a des chrétiens qui se font couper la tête ou couper les mains parce qu'ils sont chrétiens. Donc c'est pas du manichéisme. Il est de fait et que il y a chez les Kurdes cette tradition, cette volonté aujourd'hui d'accueil des minorités, de main tendue aux minorités religieuses, en particulier les chrétiens qui sont menacés d'éradication dans cette part du monde. Oui,
merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Votre bataille de Mossoul, elle est sur Arte dans l'excellente case Arte Reportage samedi à 18h30.